et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Cette semaine, on continue notre interview un peu hors série avec Mathieu Vidard, le présentateur de La Terre au Carré sur France Inter, et cette interview a été réalisée à l'automne 2019 par Oscar. Dans la première partie sortie la semaine dernière, Mathieu Vidard nous parlait de son parcours et des coulisses de la réalisation de son émission de radio. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande de le faire avant d'attaquer cette deuxième partie. Il sera ici question des enjeux de la vulgarisation scientifique, notamment sur les sujets sensibles, et de l'intérêt, ou non, du grand public pour les questions écologiques.
Dans les médias, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont traités de manière un petit peu racoleuse. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut rendre la science attractive sans la déformer ?
Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. Parfois, même nous, ça nous est arrivé de critiquer des articles qui avaient été vraiment survendus, et ça arrive de temps en temps, hein, quand la NASA trouve une goutte d'eau sur la planète Mars, ça y est, tout d'un coup, c'est l'eau liquide qui a été trouvée. Donc, il y a beaucoup d'articles, parce que, évidemment, pour plaire aux lecteurs, il faut rendre les titres un peu attractifs. Donc, ça arrive souvent que même les services de communication des institutions scientifiques elles-mêmes fassent des titres qui sont vraiment survendus. Donc, ça, c'est un problème, il faut faire très très attention. Par exemple, dans le domaine de la médecine, de la recherche, par exemple, en médecine, quand vous utilisez la souris comme modèle, entre un résultat sur la souris et un résultat sur l'homme, il peut s'écouler 10, 15 ans. Et il ne faut pas tromper les auditeurs sur les attentes. Quand on parle de maladies, par exemple, et de découvertes importantes sur des maladies, c'est vrai que les gens concernés sont très en attente de ça. Donc il faut faire très attention. Donc il ne faut pas avoir peur aussi de le dire quand les choses sont un peu survendues et que, par exemple, des articles sont ultra commentés dans la presse. Il ne faut pas hésiter à prendre le contre-pied. Et puis après, je pense que l'attractivité, en fait, de la science, elle vient des sujets eux-mêmes, en réalité. C'est-à-dire que la science en soi, elle est très intéressante, elle est hyper diversifiée, et qu'il y a tellement de choix possibles que c'est quand même pas très compliqué de trouver des sujets intéressants. Et les gens sont curieux de nature. Donc même si on leur présente un sujet qui peut être un petit peu compliqué parfois, il y a quand même, on sent une attention, et la difficulté n'est pas un obstacle, en réalité. Donc rendre des sujets scientifiques attractifs sans justement tomber dans ce que vous décriviez, je pense que c'est possible, hein, et de toute façon, il n'y a pas que des méga super titres non plus dans les publications, donc voilà, il faut jouer avec ça, et bon, c'est vrai qu'après, quand on découvre par exemple des gènes néandertaliens chez Homo sapiens, bon ben là on a des choses qui sont simples à communiquer parce qu'elles sont assez spectaculaires et inattendues, donc là ça buzz, ça marche bien et c'est très pratique. Mais il n'y a pas que ça. La science au quotidien, c'est pas que ça non plus. Donc,
Après, il y a pas mal d'articles qui montrent que les fausses informations circulent plus rapidement que les vraies informations.
Malheureusement.
Est-ce que du coup, ça vous impacte un peu dans votre travail, ce genre de choses ?
Ben justement, il faut faire très attention et le tri en fait des informations il est primordial. Donc, sur le nombre de publications scientifiques qui sortent tous les jours, et même parfois dans des revues très prestigieuses, hein, comme Science, Nature, il faut faire vraiment attention parce que toutes les études ne se valent pas. Et parfois, il y a des études qui ne sont pas très intéressantes, quoi, qui tombent d'elles-mêmes. Donc, la difficulté, c'est de ne pas tomber dans les pièges que peuvent justement vous tendre les scientifiques parfois eux-mêmes en survendant parfois des sujets, parce que, évidemment, le but d'un scientifique, c'est d'être publié au maximum. Donc, on peut être tenté parfois de gonfler un petit peu les choses. Donc, le travail pour les journalistes, c'est précisément de faire le tri et de proposer, dans la mesure du possible, quand même des sujets fiable, voilà. Mais je vous dis, le choix est tellement important que c'est pas très compliqué quand même.
D'accord. Voilà.
Mais c'est vrai, vous avez raison, les fausses informations, elles circulent beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que les vraies informations. Et même une fausse information qui sera démontée, il y aura beaucoup plus de difficultés à la faire entendre, hein, une fois que la vérité sera rétablie, donc les bonnes informations seront données. C'est vrai que c'est compliqué, ça, ouais.
Et est-ce que du coup, avec l'évolution des réseaux sociaux, vous avez dû faire des adaptations pour votre émission ?
Ben, en réalité, les réseaux sociaux, ça nous a permis aussi de toucher d'autres publics et de faire en sorte que l'émission soit diffusée autrement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est absolument incontournable. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, j'ai une community manager à temps plein dans l'émission. Donc ça, c'est rare, parce que c'est vrai qu'en général, il y a des community managers pour l'ensemble des émissions. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dédié à la Terre au Carré, mais parce que c'est hyper important de pouvoir aujourd'hui parler aussi à des gens plus jeunes qui manient d'autres outils, qui n'écoutent pas du tout la radio en direct. Écouter la radio, c'est vraiment quasiment un truc de grand-père maintenant, quoi. On est avec son portable, on podcast les émissions. L'acte d'écouter une émission en direct, c'est beaucoup plus rare, finalement. Même si, bon, il y a encore beaucoup d'auditeurs, mais on voit quand même que, petit à petit, il y en a de moins en moins. Mais parce que les gens écoutent autrement, par d'autres vecteurs. Donc nous, on essaie de s'adapter, de proposer des formats vidéo aussi, de faire de l'image un petit peu. Maintenant, les studios de radio, c'est quasiment des studios de télévision. Il y a des lumières partout, il y a des caméras partout, parce qu'on pense à faire des supports pour le web. Et nous, c'est important, là. Donc on a, bon, évidemment, le classique Twitter, Facebook, Instagram. Et c'est vrai qu'on fait aussi des formats avec nos invités qu'on filme pour après diffuser sur le web et proposer autre chose, finalement, et à d'autres publics. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça a redynamisé aussi la façon de faire de la radio et de l'interview.
Et est-ce que le fait que les sujets scientifiques ne soient pas forcément tous aussi faciles à vulgariser, est-ce que ça introduit pas des biais dans la manière de présenter la science actuellement ?
Je pense pas. Je pense que la difficulté ne doit pas être un obstacle, vraiment. Et que encore là, tout repose sur le scientifique qui va vous raconter des choses. Ça me paraît très souvent de faire des émissions sur la physique quantique, sur... la biologie moléculaire, c'est des sujets plutôt assez compliqués quand même. Mais si vous avez des gens qui vous en parlent bien, vous pouvez surmonter vraiment toutes ces difficultés, quoi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça repose sur ce talent que peut avoir le chercheur à expliquer ce qu'il fait. Et dès que vous avez la bonne personne, vous pouvez parler vraiment de tout et l'âpreté d'un sujet n'est plus un problème vraiment, quoi. Il y a peut-être une discipline aussi plus compliquée, c'est les mathématiques. Parce que parler des mathématiques avec le langage des mathématiques, c'est impossible, quoi. Si vous ne le maîtrisez pas, vous perdez tout le monde tout de suite. Alors c'est un petit peu compliqué les maths. Alors du coup, on peut parler de l'histoire des mathématiques ou de l'histoire des hommes ou des femmes qui ont fait les mathématiques. On essaie de trouver des petits pas de côté. Mais c'est vrai que réellement, moi, j'ai jamais fait d'émission entière sur... peut-être sur le nombre pi ou sur quelques équations, mais toujours en passant quand même par l'histoire, quoi, parce que les maths, c'est quand même difficile d'en parler. Voilà, mais c'est peut-être le seul sujet, parce que même en physique quantique ou en relativité générale, vous avez quand même des choses sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher, quoi. Vous avez compris déjà, vous êtes dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, que vous êtes à différentes échelles, ça vous met dans une prédisposition pour comprendre le sujet, même s'il est dur.
Nous, on voit dans notre association qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient s'investir dans la vulgarisation scientifique. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces personnes-là qui souhaiteraient justement se lancer là-dedans ?
Alors d'abord, je les encourage à le faire parce que je pense que c'est hyper important. Donc vraiment, c'est une très bonne idée. Et je pense que toutes les initiatives pour transmettre de la science, elles sont très très importantes parce que c'est une façon justement de remettre la science au cœur de la société et puis d'aller toucher des gens qui peut-être, a priori, ne se considèrent pas du tout intéressés par la science, mais qui, par des actions de vulgarisation, tout d'un coup vont se dire « bah oui, tiens, finalement, c'est chouette ». L'autre jour, j'ai rencontré un prof de maths qui rappe en fait ses cours. Hein. Donc, pour parler de Pythagore, il fait des vidéos avec ses élèves sur des raps. Hein. Bah, je trouve que c'est une super idée parce que voilà, ses élèves, comme ça, s'intéressent avec un vecteur là aussi qui est celui de la musique à des sujets qui peut-être a priori ne les auraient pas du tout intéressés. Donc les conseils que je peux donner, c'est évidemment y aller et c'est peut-être d'être très créatif pour trouver des formes aussi originales qui fassent que voilà, on soit tout d'un coup captivé, intéressé, accroché par la science. Mais il faut vraiment y aller, quoi. C'est hyper important et moi je suis super heureux quand je vois que des jeunes justement ont déjà cette conscience là. Parce qu'il y a des scientifiques adultes, par exemple, qui s'en fichent de vulgariser, ça ne les intéresse pas, ils considèrent que ça fait pas partie de leur métier. Mais par contre, il y a plein de jeunes étudiants ou plein de jeunes scientifiques qui, eux, créent des chaînes YouTube, qui organisent des débats avec des chercheurs pour diffuser la science. Et ça, il faut vraiment explorer ça au maximum. Ouais.
Vous avez lancé la Terre au carré. Comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les gens autour de la question environnementale ?
Ah, bonne question. Alors déjà, j'ai l'impression quand même qu'une partie de la population est intéressée d'elle-même à ces questions-là. On le voit vraiment dans les sondages, dans les discussions aujourd'hui avec les gens. Dès qu'on parle d'environnement, les gens s'emparent du sujet. C'était une histoire de vieux baba cool il y a quelques années de ça. Les écolos étaient vraiment des gens marginaux. Et là, aujourd'hui, ça irrigue toute la société. On voit vraiment ça d'une façon très très claire. Mais il y a encore plein de gens qui s'y intéressent pas. Il ne faut pas non plus imaginer que tout le monde s'intéresse à l'écologie. On a fait un sujet justement là sur les marches pour le climat. Et on est allé interroger aussi des jeunes devant les lycées qui ne s'intéressent pas du tout à ça et qui disent bah non, moi, le climat, je m'en fiche, c'est loin de moi, j'ai d'autres préoccupations, je préfère aller en cours même que faire la grève pour le climat. Donc voilà, il faut bien être conscient quand même que tout le monde ne s'intéresse pas à ça et que même si on est le nez dedans en permanence, nous, dans une émission ou quand on fait partie d'associations, etc., ce n'est pas forcément non plus un centre d'intérêt pour tout le monde. Mais en revanche, quand même, intéresser les gens à ces questions-là, bah, c'est leur faire comprendre les enjeux qu'il y a autour, c'est-à-dire leur parler justement des études scientifiques qui sortent sur l'effondrement des populations d'insectes, de poissons, d'oiseaux. Les gens sont sensibles à ces choses-là. Et quand ils observent eux-mêmes les conséquences finalement de ces changements environnementaux, je pense qu'assez rapidement, ils deviennent sensibles à ces questions-là. Alors le climat, c'est plus facile quand on a des canicules de pouvoir en parler, parce que tout d'un coup, les gens, ils sont concernés dans leur chair, quoi, dans leur ressenti, dans leur physiologie. C'est vrai qu'autrement, parler du climat sur des échelles de décennies ou d'un siècle, c'est compliqué. Donc il faut trouver des choses, et puis là encore, il faut inviter des gens qui sont intéressants, qui ont des choses à raconter, qui étudient sur le terrain aussi la façon dont les écosystèmes évoluent. Le but d'une émission comme celle-là, c'est pas de convaincre absolument les gens qu'il faut s'intéresser à l'écologie, mais en tout cas, c'est de leur montrer qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet et que la planète, c'est un écosystème en soi avec des interactions dans lesquelles l'homme a une place tout à fait particulière. Donc, en fait, nous, c'est une proposition qu'on fait avec cette émission-là. Et puis, ce qu'on voit aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont des initiatives à titre individuel ou collectif, au niveau de leur immeuble, de leur ville, des associations, des écoles. Tout le monde se mobilise en plein de domaines, et ça, c'est vraiment génial, parce qu'il y a une espèce de dynamique en ce moment, et c'est très créatif aussi. Les gens essaient de trouver des idées pour agir aussi à leur échelle, parce qu'ils se rendent bien compte qu'au niveau politique, le compte n'y est pas, quoi, et que les hommes politiques sont encore très lents à prendre des décisions d'ampleur, quoi, pour arriver à être à la hauteur des gens, des enjeux, précisément.
Je trouve ça justement très intéressant dans votre émission, parce que ça montre plein d'idées alternatives, et solutions alternatives.
Ouais.
Mais comment est-ce que vous faites donc pour départager un peu le contenu scientifique du contenu militant, si je peux dire? Est-ce que ça pose pas un problème justement d'être à la fois scientifique et militant?
Je pense que en fait, d'abord les deux sont pas incompatibles. On peut être scientifique et militant. On peut être scientifique sans être extrêmement militant. On peut être très militant sans être du tout scientifique. Moi, ce que j'aime bien dans l'émission, c'est qu'on est ouvert aussi pour entendre la voix de tout le monde, et pas seulement d'ailleurs des gens qui sont des écologistes, mais on pourrait très bien aussi accueillir des agriculteurs qui utilisent l'agriculture conventionnelle et qui utilisent des produits chimiques pour savoir quel est leur rapport aussi à la terre, à leur métier, parce qu'ils ont des choses aussi à nous dire. Et je pense qu'il faut exclure absolument personne. Par contre, peut-être qu'il faut faire attention entre un sujet purement idéologique et un sujet qui a un vrai fond scientifique. Là, j'ai reçu par exemple un naturaliste qui a fait tout un travail sur la chasse, hein, mais plutôt d'un point de vue très scientifique. Donc c'est intéressant, il a mené une enquête de terrain pour apporter aussi des chiffres, pour essayer de dresser un tableau de ce qu'est la chasse aujourd'hui. Et ce n'était pas juste un militant idéologue qui venait nous parler de ce qu'ils pensaient des chasseurs. Donc mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologies, parce que les gens portent aussi passionnément ces questions-là. Mais c'est normal, et ça fait intrinsèquement partie de la question environnementale. Mais c'est intéressant aussi, il faut recevoir des gens qui portent aussi ces sujets-là, c'est des gens très actifs, et qui font aussi en sorte que les lignes bougent, donc c'est intéressant.
Et comment faire donc, dans le cadre d'idéologies qui ne sont pas forcément très scientifiques? Je pense notamment aux polémiques qu'il y a pu avoir autour des OGM. Est-ce qu'il faut lutter contre ces croyances qui ne sont pas forcément scientifiques, ou justement et les accepter puisqu'elles peuvent être mobilisatrices?
Moi, je pense que là, il faut vraiment laisser la parole à la science. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut faire attention aussi à la proportion qu'on accorde à ceux qui critiquent et ceux qui sont dans la recherche, par exemple. Je pense au climat aussi. On ne va pas donner forcément un temps de parole équivalent à des climato-sceptiques, alors qu'à côté, il y a une communauté scientifique qui est énorme, qui permet d'écrire des rapports avec le GIEC, et qui est quand même, sur cette question-là, il y a quand même un consensus sur l'impact humain des activités sur le climat, Donc c'est vrai qu'on ne peut pas accorder le même temps de parole à des climato-sceptiques qui démontrent ça en permanence, donc c'est un juste dosage, c'est de se dire quelle est la parole qu'on a envie de faire entendre, donc c'est aussi des choix, c'est sûr parfois, mais Moi, j'ai quand même tendance à penser que la parole scientifique, elle est très intéressante parce qu'elle elle peut aussi nous sécuriser quand il y a un sujet qui est vraiment très controversé ou sur lequel il y a beaucoup justement de militantisme ou d'idéologie. Bah, c'est de se raccrocher plutôt à la science dans ces cas-là. Comme ça, au moins, on a une base sur la recherche et sur le factuel. Hein. Et puis après, bon, tout ce qui est militantisme, on peut l'écouter et l'entendre aussi, hein, mais voilà, il faut bien séparer les choses.
Et sinon, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent dans le milieu de l'écologie. Comment est-ce que vous conseillez à vos auditeurs éventuellement de faire pour se retrouver au niveau des vraies informations
Ouais, ça c'est compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui avec le web, tout circule. Donc c'est vrai que il faut exercer sa pensée, son sens critique, quoi. Et ça, c'est vrai que ça doit s'apprendre aussi dès le plus jeune âge. Et je suis content parce que dans beaucoup de classes maintenant aussi, les profs apprennent à leurs élèves à essayer de déceler aussi les fausses informations. Donc tout ce qui est fake news aujourd'hui, ça devient un vrai sujet aussi d'enseignement parce que c'est un enjeu très fort de ne pas plonger non plus dans la fausse science ou dans les fausses informations parce qu'après... ça fait aussi des citoyens qui vont prendre des décisions avec leur bulletin de vote, influencés par justement ces fausses informations. Donc c'est un vrai problème de société, ça aujourd'hui, la circulation de toutes ces fausses informations. Donc je pense que c'est encore là aussi peut-être au travail des scientifiques déjà de choisir les informations sur lesquelles on peut quand même s'asseoir, sur lesquelles il y a quand même quelque chose qui est vérifié et qui ne fait pas l'objet de controverses. Mais malheureusement, je pense qu'avec le web et l'immensité des réseaux sociaux, je pense que c'est très difficile aussi de lutter contre ça. Hein. Mais il faut faire de la pédagogie, il faut être conscient de ces problèmes. Donc c'est en parlant aussi régulièrement que du coup on exerce son esprit critique. Ouais. Mais c'est un vrai problème. Ouais.
Donc on arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un sujet dont vous voudriez parler
Il y a plein de sujets dont on pourrait parler parce que c'est tellement vaste. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que la science est vraiment un domaine ultra passionnant. Quoi. C'est, pour moi, c'est vraiment de la culture. C'est quelque chose qui est très enrichissant pour soi. Je trouve que ça ouvre des portes de compréhension sur plein de choses du monde. Et je pense qu'il faut au maximum valoriser la science dès qu'on peut le faire, parce que ça doit intéresser tout le monde. Quoi. Et je pense que le travail de vulgarisation que vous faites, vous aussi, ici à Jussieu, il faut l'encourager. Et rencontrer des chercheurs et consacrer du temps à la diffusion de ces disciplines. Parce que là aussi, d'abord, en tant que citoyen, on a aussi un mot à dire quand même sur le travail des chercheurs, parce qu'on finance les recherches publiques. Et puis, c'est passionnant. Et ça, déjà, en soi, ça suffit. C'est de la culture. C'est absolument génial. Et il faut s'embarquer là-dedans sans appréhension. Quoi. Et toutes les disciplines sont intéressantes. Je trouve qu'il faut vraiment essayer d'avoir une espèce de vision comme avait... les philosophes au 19e qui étaient des intellectuels multicartes, quoi, qui avaient vraiment des centres d'intérêt très larges. Et je trouve que voilà, c'est ça qui est formidable avec la science, c'est que ça ouvre des fenêtres extraordinaires sur le monde.
Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. On espère que cette plongée dans les archives de l'association de Je Science Donc Je Suis vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram, Facebook ou à envoyer un mail à Je Science Donc Je Suis. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Pour écouter nos autres épisodes des Voix de la Science et nos billets de vulgarisation scientifique Flash Science et découvrir toutes les activités de l'association Je Science Donc Je Suis, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Merci infiniment à Mathieu Vidard pour le temps qu'il nous a accordé et au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université qui nous a permis d'utiliser ses locaux pour l'interview. Sophia Richard a réalisé cette interview menée par Oscar Nodé-Langlois et montée par Zayed Bousraf et Saouda Dorin. A bientôt dans Les Voix de la Science!